Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Denis Boivin, cinéaste, qui a réalisé un film sur la vie de Sainte-Marie de l'Incarnation sur fond de déménagement des Ursulines de la Haute-Ville de Québec, intitulé « Le sang du Pélican » à l'affiche depuis le 26 mars. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique. Il évoque l'incident du canal de Suez où un gigantesque porte-conteneur a été coincé pendant plusieurs jours, bloquant ainsi une grande part du commerce mondial. Le temps est-il venu de repenser petit et de transporter les marchandises par des moyens plus modestes, moins risqués? Bonjour Louis.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors, c'est feuilleton, hein, c'est
oui,
tout à fait excitant.
Oui, mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Parce que ce qu'on voit arriver, c'est toujours plus grand, plus gros. Avec cette philosophie-là, on risque de revivre ce type d'incident encore plus souvent. Mais fidèle à nos habitudes, j'ai retenu deux nouvelles à saveur économique de la semaine dernière. Donc, on va commencer avec ça. Et qui sont, en fait, les budgets de l'Ontario et du Québec. Et on va les comparer tous les deux. En fait, première comparaison, c'est que ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Donc, on veut pas augmenter les impôts, on parle d'infrastructures, on dépense beaucoup pour la santé, puis après ça, l'éducation. Puis on a comme l'impression qu'après ça, il reste plus grand-chose. Mais bon, commençons avec l'Ontario. Juste avant le dépôt du budget mercredi dernier, les citoyens ontariens y ont appris que les consommateurs industriels de cette province allaient voir leurs factures diminuer, parce qu'on se rend compte...
Facture de quoi?
D'électricité. Parce que faut savoir, là, à Toronto, l'électricité coûte à peu près 3 fois plus cher qu'au Québec. Donc, pour les entreprises, ça commençait à devenir important. Donc, le gouvernement a décidé de réduire la facture des propriétaires, des consommateurs industriels, mais par contre, les propriétaires résidentiels, eux, leur facture allait augmenter. Donc, je dirais, c'est une forme d'augmentation de taxes indirectes, pour ainsi dire, mais ça, c'était pas dans le budget, là, c'était un peu avant. Puis, ça va continuer parce que l'électricité en Ontario, ils doivent composer avec la fin de la production de la centrale nucléaire de Pickering. Ça, c'est 3100 mégawatts, c'est à peu près une moitié de Bay James, et ça dans 4 ans. Puis il va falloir faire la réfection des centrales nucléaires de Bruce puis Darlington. Puis ça, le coût est estimé à environ 25 milliards de dollars. Donc,
Et tout ça, c'est nucléaire. On ne parle pas d'hydroélectricité, là.
Non, là-bas, ils n'en ont pas. Donc, ils n'ont pas même le choix. Donc, revenons au budget. Il a été déposé, on l'a dit, mercredi, par le ministre des Finances, Peter Betlem-Falvey, un drôle de nom. Il est d'origine hongroise et il est né à Montréal. En fait, je l'ai connu à l'université, à McGill. C'était un peu bizarre à l'époque. Il avait à peine 20 ans, puis il jouait au golf l'été. Et j'associais le golf à... c'est pour les vieux, là. Mais donc, il passait ses étés à Métis Beach, puis il jouait au golf. Alors, plus tard, il est devenu banquier pour la Banque Toronto Dominion. Et il a fait de la politique. Il est président du Conseil du Trésor et ministre des Finances. Donc, la pandémie...
Vous avez des fréquentations très chic.
Oui, j'avais... à l'époque, on ne le savait pas. On était jeunes. Bon, tout ça pour dire que la pandémie, puis ses conséquences, ça va continuer à avoir des effets. L'an dernier, juste pour rire, ou comparer, le déficit en Ontario était presque 39 milliards. Cette année, le ministre pense qu'il va être 31,1 milliards. Et l'an prochain, il table sur 27,7 milliards. De déficit et après ça, en 2023, 20 milliards. Donc, on le voit...
Si on ajoute tout ça, ça fait beaucoup, non?
Ça fait 120 milliards sur 4 ans.
Ah oui.
Puis ça, c'est un gouvernement qui est supposé être conservateur, mais ils ne croient pas, eux aussi, que c'est le temps de revenir à l'austérité, un peu comme au Québec. Bon, je me souviens, lors d'une entrevue, le ministre avait donné, avant la pandémie, il était très envieux de la position du Québec qui, selon lui, avait réussi sur 10 ans à dégager des surplus, puis on avait commencé à rembourser notre dette ici, puis lui...
Pardonnez-moi, mais un ministre des Finances ontarien qui est envieux de la position financière du Québec...
Oui.
on ça voit fait pas un ça petit souvent. Velours quand même, ça. Ça oui. C'est nouveau.
Exactement, oui. Un ancien banquier. Et il oui, faut oui. dire aussi, en 2009, il avait été oui. Président d'une agence de notation à Toronto, la Dominion oui. Bond Rating Service, qui avait diminué la cote de l'Ontario en se disant, le Québec commence à rembourser ses dettes, ils ont un plan, mm-hmm. puis nous autres, on n'en a pas. Bon, mais comme il le disait lui-même mercredi dernier dans son budget, pour avoir une économie en santé, on doit avoir une population en santé, puis il faut mm-hmm. commencer par se débarrasser de ce virus-là, puis ça coûte cher. Donc, bon, il se donne pas une grande marge de manœuvre pour le retour à l'équilibre budgétaire. On repousse ça dans l'avenir. Selon lui, éliminer le déficit, ça va prendre entre 7 et 10 ans, s'ils sont chanceux. Mais surtout, mm-hmm. il veut pas augmenter les impôts, un peu comme Éric Girard au Québec. Donc, sans grande surprise, c'est la santé qui demeure le portefeuille le plus coûteux dans le budget ontarien. Ça a augmenté de presque 3 milliards de dollars pour un grand total de 64 milliards de dollars suivi par...
Écoutez, Louis, ça fait depuis un an qu'on nous valse, qu'on nous parle de milliards et milliards.
Oui.
Pour moi, maintenant, 64 milliards de dollars, c'est rien. Je suis tellement oui. habitué à entendre tout ça que finalement, je dis « Ah ».
Bon. Exactement. Au fédéral, on fait du déficit. On est à 250, 300 milliards.
Oui.
Donc, on a comme alors... l'impression que, ouais, bon...
Mais c'est des peanuts.
Oui, c'est des peanuts, tout ça. Bon, deuxième grand poste, l'éducation. Il y a eu une augmentation aussi qui est liée à la pandémie parce que dans les écoles, évidemment, on a dû désinfecter les installations scolaires, déployer des infirmières là-dedans, puis acheter de l'équipement de protection. Et, bon, ce qui reste un peu, ben, c'est la bonne vieille recette keynésienne et le financement consacré aux infrastructures va doubler cette année et l'an prochain. C'est autre recette à la mode, le virage numérique dans les régions isolées, particulièrement dans le nord de l'Ontario. Le gouvernement a décidé d'investir une somme supplémentaire de presque 3 milliards en infrastructures pour haute vitesse pour qu'ils se sont donné l'objectif que l'Ontario soit branché d'ici 2025.
Alors, Louis Bouchard, là, vous me dites maintenant que le budget du Québec suit à peu près les mêmes... En chiffres plus petits, on est moins nombreux qu'en Ontario, mais c'est un peu les mêmes principes.
Ben, je dirais, d'abord, Éric Girard, c'est un ancien banquier, comme Peter Bethlenfalvy. Lui, il a passé sa vie à la Banque nationale. Il présentait, lui, son budget une journée plus tard, donc jeudi dernier. Lui, il l'a nommé un Québec résilient et confiant. Bon, le gouvernement québécois a fait une première concession en matière de discipline fiscale, parce qu'on le sait, il y a une loi sur l'équilibre budgétaire qui nous permet 5 ans peut-être de déficit, mais après ça, il faut commencer à rembourser. Donc là, on veut changer la loi et se donner 7 ans quand même. Donc, dans le passé, ça a été bon. Les 10 dernières années, on le sait, ça a été quelquefois difficile, l'austérité et tout ça. Mais on le voit, si on ne change pas la loi, ben, il aurait été difficile d'atteindre cette cible-là sans augmenter les impôts. Donc, comme en Ontario, on ne veut pas augmenter les impôts. Reste à voir comment on va financer tout ça. J'ai comme l'impression que ça va se faire après les élections. Comme en Ontario, le budget du ministre Girard repose sur une victoire de la pandémie. Et après ça, on table sur des taux de croissance réels du PIB. On parle de 4,2% et 4,1% pour cette année et l'an prochain.
Donc, une victoire sur la pandémie, pas une victoire de la pandémie.
Oui, exactement. Exactement.
Oui, sûr, hein? D'accord.
Et évidemment, bon, pour stimuler la reprise, le Québec joue aussi la méthode classique, le bon vieux keynésianisme. Il rajoute notamment 4,5 milliards à son plein d'investissements en infrastructures. On sait, c'est une bonne nouvelle parce que nos infrastructures sont dans de tristes états de décrépitude avancée quelquefois. Vous roulez sur nos routes puis on le sent un peu. Donc, en gros, je dirais, les deux budgets se rassemblent. Mais les déficits ontariens sont plus importants, vous le disiez, leur économie puis leur population plus grande. On ne veut surtout pas hausser les impôts, puis on tape sur la reprise pour espérer un jour rembourser la dette. Les deux postes importants, ça reste la santé puis l'éducation, puis on saupoudre un peu d'infrastructures ici et là, et on rembourse les intérêts de la dette. C'est un peu le scénario d'horreur que vous vous souvenez peut-être, Claude Castonguay nous avait dit que si ça continue comme ça, les gouvernements provinciaux, ben, ça va être en fait la santé, un ministère de la santé,
oui,
puis un ministère de l'éducation.
Oui. De grosses régies de la santé, régies de l'éducation.
Exactement.
Louis Bouchard, le temps nous presse, il nous reste à peu près 10 minutes pour parler de pas la crise de Suez, mais bon,
non.
le bas bateau coincé.
Le bateau coincé. Alors, je pensais faire une réflexion là-dessus. Sujet de la semaine. Bon, l'autorité du canal de Suez a annoncé hier midi qu'il y avait reprise du trafic sur cette voie maritime majeure qui était obstruée depuis à peu près une semaine par un gros porte-conteneur géant, là, le Ever Given. Et hier midi, on a annoncé qu'il était finalement remis à flot. Mais il faut s'imaginer, là, il y avait au total près de 400 navires qui étaient coincés depuis à peu près une semaine aux extrémités de ce canal qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée.
Donc, ça fait beaucoup d'argent, ça, non?
Oui, exactement. Bon, précisons d'abord la simplicité de la chose, là. Habituellement, quand on parle d'économie à cette chronique-là, quelquefois, je suis obligé d'expliquer. Là, c'est un gros bateau qui a échoué sur le bord d'un canal. Ça nous change un peu des histoires compliquées de Bitcoin puis de GameStop. Bon, mais tout ça pour dire qu'on estimait à des milliards de dollars les pertes pour l'économie mondiale. Plus précisément, l'assureur Allianz avait estimé que chaque jour coûtait entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. Donc, c'est quand même... C'est pas des cacahuètes, là. Bon, la presque totalité de ce qui se consomme dans le monde, ça emprunte souvent les voies maritimes sous une forme ou sous une autre. Là, ces produits-là, c'est le pétrole. Bon, il y en a qui est dans du gazoduc, mais beaucoup, c'est par bateau, les céréales, les minerais, les produits manufacturés. Ça s'explique. Malgré que ça soit lent, le transport par bateau, ça reste la façon la moins coûteuse d'acheminer des marchandises sur des longues distances. Donc, ce porte-conteneur géant au nom de Ever Given, il était coincé depuis mardi dernier en diagonale du canal.
Ce canal, dites-nous quelques chiffres sur le canal, Louis Bouchard.
Ben, c'est une voie d'eau qui fait 190 km de long, 300 km de large.
300 combien, kilomètres?
300 mètres, pardon. On commence déjà à faire du côté de la Méditerranée, on veut l'élargir parce qu'on se rend compte qu'il est trop petit. On voit passer environ 10% du commerce maritime international. Ça veut dire, l'an dernier, par exemple, il y a 19 000 navires qui ont passé le canal, selon l'autorité du canal de Suez. Évidemment, ça évite surtout de faire un grand détour de 9000 kilomètres autour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance.
C'est un projet assez vieux, non, déjà? C'est 19e
oui,
siècle, non?
Exactement. Ça a été inauguré en 1869. Ça a été nationalisé par Nasser en 56. Et surtout, le canal, il permet de réduire la moitié du temps et du coût de transport entre l'Asie puis l'Europe. Donc, c'est important. Oui. Puis, il n'y a pas juste du pétrole qui emprunte les canaux. Aujourd'hui, la mondialisation, puis surtout avec le procédé de juste à temps. Vous savez, les entreprises ont pu non plus en entrepôt des pièces. Il faut livrer juste à temps. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit importé au bon moment. Donc, quand
si ça bloque, ben alors c'est toute la chaîne de fabrication qui
bloque, exactement.
D'accord,
donc, on pourrait dire qu'il existe en fait quatre goulots d'étranglement possibles. En plus du canal de Suez, il y a celui de Panama. Si jamais ça bloque, on a des problèmes. Le détroit d'Ormuz, c'est par là que passe le pétrole du Proche-Orient. Si l'Iran décidait de mettre des mines, on aurait des gros problèmes. Puis le détroit de Malacca, où se trouve Singapour, pour la route de l'Asie, pour le reste du monde, ben ça passe beaucoup. Et que font les armateurs depuis 10 ans? Ben ils construisent des super porte-conteneurs qui sont de plus en plus grands. Un exemple, en 2010, un porte-conteneur moyen, ça transportait 5000 conteneurs à bord. L'Ever Given, qui s'était échoué, lui, en transportait 20 000.
Et 4 fois plus. Mais je peux comprendre. Écoutez, Louis Bouchard, mais plus on construit gros, moins c'est cher. On fait une économie d'échelle quand même.
Exactement. Il y a des économies d'échelle. Et les armateurs, il faut dire, depuis 10 ans, ils ont accès à des taux d'intérêt bas. Donc, ils construisent de plus en plus grand. Mais aussi, les fournisseurs, au lieu de minimiser leurs risques, puis prendre plusieurs bateaux pour éviter autant que possible que quelque chose survienne, ben ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, puis ils espèrent que rien de majeur va arriver. On sait, en investissement, c'est une très mauvaise stratégie. Là aussi, ça va contre toute rationalité économique. économique parce qu'on concentre le risque au lieu de diffuser. Donc, parce que ces super-conteneurs-là sont de plus en plus complexes et plus c'est complexe, plus il y a de chances éventuellement que des problèmes vont survenir. Le pire...
Et on avait prévu le coup, non?
Exactement, c'est que certains l'avaient prédit. Je retiens par exemple l'OCDE, vous savez, l'Organisation de coopération et de développement économique qui est basée à Paris. Ils avaient publié, eux autres, en 2015, un rapport faisant en sorte que de tels goulots d'étranglement suite à un accident maritime coûteraient très cher à l'économie mondiale. Oui. Et pas seulement à cause du juste à temps, qui soit dit en passant, se dit en bon français à flux tendu. Je trouve ça très, très joli.
C'est joli.
Mais bon, on le disait, les entreprises ont plus de stock. Ils comptent sur leurs fournisseurs pour leur livrer des composantes qui ont besoin juste au moment où ils vont produire leurs produits. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont très serrées. Et voilà pourquoi il y avait des commentateurs qui commençaient à paniquer en fin de semaine lorsque le porte-conteneur ne bougeait plus.
Alors concrètement, Louis Bouchard, est-ce qu'il y a eu déjà des conséquences, des impacts de ce blocage du
conteneur? Par exemple, j'ai lu samedi que la Syrie avait indiqué qu'elle commençait à rationner le carburant parce qu'ils attendaient eux autres une livraison qui n'arrivait pas. Il y a 11 navires qui étaient partis de Roumanie qui transportaient 130 000 moutons qui étaient aussi affectés. Le cours du pétrole commençait à monter à la hausse parce qu'on disait qu'il risquait En plus, l'opérateur du canal il avait affirmé que l'Égypte perdait environ 20 milliards de dollars par jour parce que c'est un pays qui vit ces temps-ci moins du tourisme. Il n'y a pas de tourisme et ils sont dépendants quand même du canal.
Et parenthèse, l'Égypte a connu deux autres catastrophes. Il y a eu un immeuble qui s'est effondré, je pense, au Caire ou pas loin du Caire. Il y a eu un terrible accident de train à tel point que beaucoup d'Égyptiens maintenant commencent à évoquer la malédiction des pharaons parce que On a découvert une vingtaine de tombes de pharaons, ou de momies en tout cas, intactes, et on veut les trimballer, on veut les bouger ici et là, ou la mettre dans un musée, ou dans un laboratoire. Et ça, les Égyptiens se disent, si on bouge les tombes des pharaons, ils vont se révolter. Et c'est pour ça que le porte-conteneur s'est bloqué, qu'un immeuble s'est effondré et qu'il y a eu un gros accident de train.
Exactement. Tout ça pour dire que quand ça va mal, ça va mal. Donc, je pensais faire un retour historique. C'est intéressant de savoir que cette construction-là... du canal. Et la construction du canal de Panama, c'était deux projets qui étaient tous deux mus par une idéologie qu'on appelait Saint-Simonisme ou aujourd'hui, on dirait du socialisme utopique. Aujourd'hui, on pense souvent que les kibboutz israéliens, c'est des espèces de reliquats de ce socialisme utopique. Ça a été fondé par Henri de Saint-Simon, qui était né en 1760. Très jeune, il est allé se battre aux côtés de Lafayette, auprès des révolutionnaires états-uniens. Il a été mis en prison. Puis à partir de 1803, il développe ses idées sur le développement industriel rationnel. Puis il commence à mettre de la mathématique derrière ça. Puis ça va faire les grandes heures, je dirais, de la planification française, puis des ingénieurs qui sortaient de l'École polytechnique de Paris, puis de l'École des mines. Napoléon III se sentait même certaines affinités avec ces idées-là, mais c'est surtout le constructeur du canal, Ferdinand de Lesseps, qui, lui, était un Saint-Simonien convaincu.
Même au Brésil, la devise du Brésil, ordem e progresso, ordre et progrès, est une devise Saint-Simonienne.
Hein? Exactement. Donc, on pensait faire le bonheur humain grâce à la rationalité économique. On pensait aussi, à l'époque, le télégraphe ou les grands réseaux de chemin de fer transcontinentaux qui s'élaboraient à l'époque. Ça rapprocherait les hommes, ça éviterait ainsi de se faire la guerre, puis on ferait tous du commerce heureux ensemble. Remarquez, on disait ça aussi de la radio, de la télévision. Les avions, ça rapprochait les êtres humains, puis ça abolirait les frontières. On peut même dire que l'Union européenne, il y a un fond aussi d'une idée saint-simonienne derrière tout ça. Bref, l'idée que la communication peut régler beaucoup de nos problèmes. Mais avec notre monde de plus en plus complexe, il faudrait chercher à éliminer le risque au lieu de le concentrer. Et donc, si l'avarie de la semaine dernière devait servir à quelque chose, ce serait de prendre conscience que plus c'est complexe, plus ça implique de risques et plus ça risque de briser aussi. Donc, un porte-conteneur contenant 5000 contenants, c'est plus facile à dégager qu'un qui en contient 20 000. Donc, je pensais que revenir un peu là-dessus, se dire que de temps en temps, on ne pense pas à ça. Beaucoup des objets qui viennent de Chine, ça transite par là et puis on ne sait pas. IKEA, par exemple, achète beaucoup de choses d'Indonésie, puis ça transite aussi par là ou par le canal de Panama. Donc, on ne pense pas à ça quand ça fonctionne bien, mais quand ça ne fonctionne pas bien, c'est l'occasion de se poser quelques questions.
Vivons petit, modeste et limité. Comme ça, les désastres sont également petits, modestes et limités. Merci. Louis Bouchard,
voilà.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Comme toujours.
À venir sur les ondes de Radio VM, le sang du Pélican. On vous revient après la pause publicitaire.